Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais aujourd'hui évoquer une figure du théâtre français qui a connu un oubli de presque un demi-siècle et qui apparemment revient au premier plan. Je veux parler de Octave Mirbeau. Il est né en 1848, il est mort en 1917. Il a été l'ami de Claude Monet, de Auguste Rodin, d'ailleurs. Auguste Rodin a sculpté un buste d'Octave Mirbeau et il a été un pamphlétaire redouté et redoutable. Sa première pièce a été créée par rien de moins que Sarah Bernhardt et Lucien Guitry. En 1900, il a fait paraître un roman, Le journal d'une femme de chambre, et qui a été porté à l'écran pas moins de trois fois, une première fois en 1946 par Jean Renoir avec Paulette Godard, une deuxième fois en 1964 par Louise Buñuel avec Jeanne Moreau, et en 2015 par Benoît Jacquot. Alors, ce journal d'une femme de chambre aurait peut-être suffi à assurer sa survie après sa mort, mais il a surtout écrit une pièce qui a été créée à la Comédie-Française. Une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1903, qui s'appelle « Les affaires sont les affaires ». Et cette pièce a été un triomphe mondial. Je vous signale qu'elle était très admirée à l'époque par Léon Tolstoï, le romancier russe. Et à la création, c'est Louise Lara qui a créé le rôle de la fille. Et Louise Lara était la maman de Claude Autant-Lara, le réalisateur. Et le créateur du rôle masculin principal, Maurice de Ferrodi, l'a joué pas moins de 1200 fois en plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse pièce « Les affaires sont les affaires » ? Le héros, enfin, le personnage principal s'appelle Isidore le Chat. C'est un homme d'affaires qui ne s'embarrasse ni de sentiments, ni de diplomatie, et qui arrive à imposer sa mainmise sur tout l'environnement. Il achète les hommes politiques, il achète tout le monde finalement. À tel point que, lorsque la pièce était jouée à nouveau en 1994, il paraît que certains spectateurs y ont vu des allusions à la situation de l'époque, c'est-à-dire 1994. Je vous rappelle que la pièce a été créée en 1903. Ce qui prouve qu'il y a sûrement là-dedans quelque chose, disons, qui dépasse les siècles et les années. Alors, Isidore le Chat. Alors, revenons-en à Isidore le Chat. Il a deux enfants. Il a un fils, Xavier. Xavier, ben, c'est le type même du garçon qui ne fait rien, qui profite de l'argent de papa. Mais le père, étonnamment, est plein d'indulgence pour lui. Voici une scène entre le fils et le père. Isidore, ah, enfin, vous aviez mon père, il est tant de doigts. C'est tout ce que tu me donnes, eh bien quoi, voyons, on n'embrasse pas son papa, son vieux papa. Si tu veux, il embrasse son père. Ce n'est donc pas chic. Regarde-moi un peu, qu'est-ce que c'est que cette figure-là? On est embêté, hein? Oh, petite femme, affaire de cœur. Ah non, les affaires de cœur, il y a longtemps que j'en ai soupé. Sacré petit chauffeur, affaire d'argent? Plutôt. Ah, grosse culotte, assez grosse. À Ostende? Ostende. Raconte-moi ça. Un verre de Porto? Merci, tu sais bien que je ne bois que de l'eau. Fais tard, va. Alors, Xavier s'asseyant, 10 000 louis. Qu'est-ce que tu dis? 10 000 louis. J'avais bien entendu, bigre. Tes histoires sont courtes, mon garçon, mais elles sont bonnes. Bonnes, enfin, voilà. Mais 10 000 louis, c'est une somme. Oh, pour toi. Comment pour moi? Tu es extraordinaire, mais tu n'as pas toujours 200 000 francs de disponibles comme ça, on prévient, que diable. Une affaire demain et on n'y paraîtra plus. Une affaire, c'est bientôt lié. Pas moyen d'arranger ça, impossible. Dette d'honneur. D'honneur, oh. Diable l'honneur. Où il y a de l'argent, il n'y a pas d'honneur. Il y a une affaire et ça se traite. Xavier, pas dans mon monde. Dans son monde. Il a bien dit ça. Est-il étonnant, ce gamin, alors? Impossible? Oui. Tout à fait impossible. Tout à fait impossible. Écoute, je veux bien te donner encore ces 200 000 francs. Seulement, il faut que tu me les regagnes. Si je peux, tu peux. Mais j'ai la tête rompue par les affaires depuis ce matin. J'en ai encore une très grosse à traiter. Nous en reparlerons après le déjeuner. Mon dessert, alors. Isidore, caressant la joue de son fusil, est gentil tout de même. Viens voir mes chevaux, nous avons le temps. Tu sais qu'il faut que je sois rentré à Paris à 6 heures. Tu le sauras, pas moi et ta mère, surtout. Voyons. J'en aurai pour 15 jours de plaintes, de pleurs, de lamentations. Vous aviez toujours raison, maman. Ah, mon petit. Et tartelette cabri. Isidore, un ange. De plus en plus un ange. Papa, à ton âge. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas comme toi, moi, j'ai le cœur. Jeune, nom d'un chien, il me tarde. Il me faut du sentiment, de l'amour. De l'idéal, nom d'un chien. Eh bien, oui. Ça repose les affaires, ils rient et disparaissent. On a donc vu déjà, dans cet extrait de scène, la façon dont Isidore pardonne tout à son fils, simplement parce qu'il est son fils. Et il n'en est pas de même avec sa fille, comme on l'en verra par la suite. Isidore le chat a quand même une faiblesse. Il est roturier, il le sait, il s'en vante, il s'en accommode. Mais on va découvrir dans la pièce que, quelque part, ça flatterait son amour-propre de nouer une alliance avec quelqu'un de la noblesse. Et pour ça, il va essayer de mettre un marquis dans sa poche. Donc, Isidore le chat et le marquis. Isidore, tiens, j'ai justement là, comme par hasard, votre petit dossier. Nous allons voir ça. 4 obligations de 200 000 francs, une autre de 400 000, 1200 000, les intérêts à 5% restés impayés depuis 2 ans, 1320 000. C'est exact, le marquis, parfaitement exact. Isidore, oui. Eh bien, je le regrette, monsieur le marquis, mais cette fois, impossible. Il refuse de retarder les échéances. Le marquis, vous refusez. Désolé, mais je refuse. Pourtant, je vous apporte toutes les garanties désirables. Des hypothèques encore. Quelle meilleure garantie voulez-vous donc? Mais monsieur, je peux y vous offrir d'autres garanties. D'abord, mon honorabilité. Je sais ce qu'elle vaut, je lui rends hommage. Mais nous ne connaissons pas ça dans les affaires. Et puis, j'ai ma part dans la succession de ma table sombreuse. 83 ans. Oh! Les successions à venir et par le temps qui court. Le marquis, c'est bien, monsieur, il ne me reste plus qu'à m'excuser d'une démarche. Monsieur le marquis, faites-moi l'amitié de vous asseoir, mais je vous en prie. Monsieur le marquis, je vous aime, moi, vous me plaisez beaucoup, mais là, beaucoup, et je voudrais vous tirer de la situation désastreuse où vous êtes. Désastreuse, oh, disons le mot, de la ruine. Peste, comme vous y allez, cher monsieur le chat. Inutile de feindre avec moi, monsieur le marquis, je connais votre position aussi bien que vous, je la connais mieux que vous. Ma position, comme vous dites, n'est pas très brillante en ce moment, elle n'est pas non plus désespérée. Si, monsieur le marquis, si, elle l'est. Et ma foi, je puis bien vous avouer une chose, il y a longtemps que je caresse l'idée de réunir à la terre de vos perdus, la terre des forcelés. Et mon Dieu, oui, c'est un de mes rêves. Quel domaine, monsieur le marquis, ce rêve. Je puis le réaliser demain si je veux. Mais vous me plaisez beaucoup et je me demande si avant d'en arriver à ces extrémités fâcheuses pour vous, pour moi, pénibles, après tout, malgré mon rêve, je me demande si nous ne devons pas chercher un moyen d'entente, un terrain de conciliation, si nous ne pouvons pas nous arranger comme de braves gens que nous sommes. Mon Dieu, je le désire. Ça dépend de vous. Que me proposez-vous? Une combinaison admirable, monsieur le marquis, voyons. Mais voilà. Vous êtes un homme à principe, à grand principe. Vous n'êtes pas du tout dans le mouvement moderne. Vous restez attaché aux vieilles idées du passé. Et permettez-moi le mot, à toutes sortes de préjugés qui n'ont plus cours aujourd'hui. Chevaresque, je veux bien, mais pas pratique. Enfin, c'est grand dommage. D'être resté peu pratique dans une société qu'il est devenu beaucoup trop, c'est la raison d'être actuelle de la noblesse et c'est sa gloire, Isidore. C'est sa mort. Tant pis. Chez nous, monsieur, l'honneur passe avant l'intérêt. Encore l'honneur. Plaît-il? Rien, hein, pardon. Je pensais à mon fils. Certes, en politique et surtout en religion, j'ai des principes inflexibles, des principes avec lesquels je ne transigerai jamais, mais je ne condamne pas pour cela toute espèce de progrès. J'ai, plus que vous ne le croyez, l'esprit ouvert à de certaines nécessités sociales, à la, de certaines choses nouvelles, pourvu qu'elles n'attendent à rien à l'idéal que je me suis fait de la vie. Oui, seulement voilà, elles y attendent toujours. Mais non, voyons quelle est cette combinaison. Ma foi, monsieur le marquis, vous m'avez un peu découragé avec vos grands mots, l'honneur. L'honneur, sans doute, mais chacun entend l'honneur à sa façon. Et je crains bien que la vôtre ne soit pas la mienne. Non, voyez-vous, cette combinaison à quoi j'avais songé un instant, j'ai bien envie d'y renoncer. Expliquez-la toujours. À quoi bon? C'est donc bien terrible. C'est une affaire. Nous causons, cela n'engage à rien. Eh bien, monsieur le marquis, puisque vous le voulez, je vais droit au but et joue carte sur table. En deux mots, vous avez un fils ruiné, j'ai une fille très riche, excessivement riche. Marion Lay. Je vous propose une première pause musicale. Et la conversation entre Isidore Lechat et le marquis se poursuit. Le marquis, qu'est-ce que vous dites ? Marion Lay. Et comme je sais faire la part des choses, consentir au sacrifice qu'il faut, je vous donne quittance des 1320 000 francs et vous rentrez dans vos droits de propriété intacts sur le domaine de Porcelet. Merci-vous donc, monsieur le marquis. Voyez. Qu'Isidore le chat, cette canaille de le chat, comme on dit, c'est se conduire à l'occasion en vrai gentilhomme. Le marquis ne sait trop que répondre. C'est « Vous n'y songez pas. Je vous demande pardon. J'y songe parfaitement. Je songe aussi à servir à ma fille une rente de 250 000 francs. Je garde la capitale. Il est mieux entre mes mains que dans les siennes. Car le capitaine me connaît et il s'amuse avec moi. » Alors, c'est un marché. C'est une affaire. Vous voulez m'acheter, dites-le, m'acheter. Ah, voilà les grands mots qui reviennent. Mais non, monsieur le marquis, je vais vous sauver du désastre inévitable. Vous serez bien avancé quand vous devrez quitter cette belle terre de Porcelet, réduire à rien votre existence fastueuse, accablée de lourdes dettes, fraquée par tous les hommes de loi, tombant de saisie en vente, promenant à travers tous les tribunaux votre fameux blason coiffé de papier timbré. Heureux encore si après être de misère, vous trouvez un jour, comme le père de la Fontenelle, une place de régisseur chez un brave homme tel que moi. Je sais ce que c'est, aller s'éterminer deux fois, ce n'est pas drôle. Mais moi j'ai du ressort, vous n'avez que des principes. Maigre défense, croyez-moi, contre de pareils malheurs. M'acheter, moi. Mais n'aurait-il peut-être donc pas toujours la même chose? Je n'achète pas, j'échange. Les affaires sont des échanges. En échange de l'argent, de la terre, des titres, des mandats électoraux, de l'intelligence, de la situation sociale, des plats, de l'amour, du génie, ce qu'on a contre ce qu'on n'a pas. Il n'y a rien de plus licite et rassurez-vous, rien de plus honorable. Mais mon fils n'a nullement l'intention de se marier, oui, je sais bien, on n'a pas l'intention de faire une chose, et puis on l'a fait tout de même. Les circonstances imprévues, les nécessités de la vie corrigent souvent les intentions les mieux arrêtées. Ah, monsieur le marquis, si vous vouliez, vous laissiez conduire par moi. Quelle magnifique, quelle merveilleuse affaire tous les deux à s'apprêter. Tenez, l'hôtel, déporcelé ce superbe hôtel que feu votre père, après le krach vendu au prince Karlov, va être remis en vente en quelques mois. Ah, vous ne savez pas du tout. Vous voyez, il faut que ce soit moi qui me préoccupe et vous mette au courant des affaires de la famille. Cet hôtel, je pourrais le racheter, le déposer, pierre, meuble, collection, dans la corbeille de noces de ma fille. Un cadeau vraiment royal et que ne ferions-nous point. Unis par les liens du sang et par des intérêts communs, nous irions ensemble à la conquête du monde, tout simplement. Et la conversation avec le marquis se poursuit. On devine que le marquis va finir par céder, tout simplement, parce qu'il n'a pas le choix. Là où Isidore, le chat, va se heurter à un os, c'est que lorsqu'il annonce à sa fille, devant le marquis, qu'elle va épouser donc le fils du marquis, elle refuse tout de go. Elle refuse en précisant « Je ne suis pas libre parce que j'ai un amant. » Imaginez, en 1903, sur une scène de théâtre, une fille bien élevée, bien éduquée, comme on disait alors, qui annonce tout de go qu'elle a un amant. Aujourd'hui, ça ne ferait plus sursauter personne. À l'époque, ça suscitait un scandale. Isidore réalise que l'affaire est tombée à l'eau, le marquis s'en va, il reste seul avec sa fille. À nous deux maintenant. Et ne me regarde pas comme ça, misérable, à genoux. Tant que tu es ici, sous mon toit, c'est moi seul qui ordonne, entends-tu, à genoux d'abord et la porte après. Germaine résiste et se dégage. Sois tranquille. Je m'en irai d'ici. Ne crois pas au moins que c'est toi qui me chasses. Je pars de mon plein gré. Cet incident fatal, nécessaire, n'avance même pas l'heure de mon départ. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai sur le cœur, ce ne sera pas long. Isidore, les livres, les sales livres, voilà ce qu'ils ont fait de ma fille. Laisse donc les livres. Ce ne sont pas les livres qui m'ont détaché de toi, c'est toi-même, ta fille. Où prends-tu que je sois ta fille? Nous n'avons jamais échangé 10 mots, à quoi bon d'ailleurs? Tu n'aurais rien compris à ce que j'aurais pu dire. Et toi, tout ce que tu dis me dégoûte, me révolte. Oui, oui, je sais, tu méprises les affaires, mais pas l'argent. T'en ai-je jamais demandé? Je ne veux pas de tes cadeaux. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de toi. Je ne veux rien de toi. Qui t'a élevé? Qui t'a nourri? Dès que j'étais en âge de comprendre, dès que j'ai pu me rendre compte d'où il venait ton luxe, je l'ai répudié, tes toilettes, je les ai refusées parce qu'elles me brûlaient la peau. Entends-tu? Parce que tout ce qu'il y a ici, de la dépouille et des larmes, voleur, voleur. Ma parole, c'est elle qui fait l'offenser, elle qui nous insulte. Tu as autant de toupet que de vices. Comment oses-tu parler, misérable? Germaine, je n'ai rien à me reprocher. Alors, tu montais tout à l'heure devant le marquis? J'ai dit la vérité. Un homme, ça ne te dégoûte pas, mademoiselle la vertu. J'aime mieux me donner que me laisser vendre. Ah, c'est phrasé. Assez crâné, j'en ai maté d'autres que toi, j'aurais raison de toi, fille perdue. Germaine, tu ne peux rien sur moi. Non? Ah, je vais lui apprendre à vivre à la demoiselle. Où l'as-tu trouvé? Où l'as-tu pêché? Attends un peu, tu vas le connaître. Veux-tu que je t'étrangle? Je vais te faire parler, moi, son nom. Et Germaine appelle Lucien, qui est un des assistants de son père. Germaine s'en va avec Lucien. Elle a refusé toute... tout le bien que son père aurait pu lui donner en héritage. Et à ce moment-là, arrive la nouvelle la plus terrible, sans doute pour Isidore. On lui apprend que son fils, Xavier, vient de se tuer dans un accident d'automobile. Le vieil homme est effondré. Il s'est heurté à deux forces invincibles, la mort de son fils, l'amour que sa fille éprouve pour quelqu'un dont il ne veut pas pour gendre. On pourrait croire que le personnage ainsi campé par Octave Mirbeau, qui paraît un peu toute une pièce, quoique très retors et très intelligent, n'a que des côtés antipathiques, et pourtant, lorsqu'il est face au deuil de son fils et au départ de sa fille, il a la force de réagir, parce que deux de ses associés essaient de le tromper, dans un dernier sursaut, dans le sursaut d'orgueil ou, disons, de conviction personnelle, il leur dicte les conditions telles qu'ils sont obligés de signer un papier indiquant qu'il reste le maître du jeu. Et la pièce s'achève après cette dernière scène. Isidore le chat range les papiers, les met dans sa poche et, trébuchant, les jambes molles, il se dirige vers la porte en s'accrochant au meuble. Il va enfin pouvoir aller regarder le corps de son fils qu'on vient de ramener dans la maison. Je vous remercie de m'avoir écouté.